possède encore l'argent, les richesses. Donc moi, j'ai symbolisé ça par des grands groupes économiques qui se concentrent sur le contrôle des dernières ressources d'eau douce, le contrôle des dernières ressources en pétrole, effectivement, et les terres non polluées. Hein, parce qu'effectivement, les engrais, on se rend compte que progressivement, les engrais, les pesticides posent des questions de plus en plus précises sur, mon Dieu, la terre est épuisée, il faut la mettre en jachère, combien de temps on doit nourrir maintenant 7 milliards, voire 9 milliards. Donc effectivement, je suis parti de ces de curseurs qu'on peut voir aujourd'hui. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que ça peut donner dans 100 ans? Et comme je ne voulais pas non plus écrire un livre économique, parce que ce n'était pas mon propos, que c'était plutôt une volonté imaginaire, j'y ai mis un héros, qui est un anti-héros, qui est un monstre. D'ailleurs, ça m'a valu un accueil assez difficile. Parfois, on m'a demandé de sortir d'une librairie en disant que c'était honteux d'écrire des volontés pareilles. Donc, ça a été assez délicat. Bon, moi, je n'ai pas eu ce sentiment en l'écrivant, parce que moi, je l'aime bien, mon anti-héros, même si c'est effectivement c'est un véritable monstre, mais qui suit un parcours initiatique de retour à la vie par l'amour. Bien qu'effectivement, il naît dans une ferme à organes. C'est un enfant qui est élevé pour ses organes, pour prélever les organes, pour les donner à des gens qui ont de l'argent, effectivement. Donc, très très gai, hein, mesdames et messieurs, si vous voulez commencer à prendre un pistolet et vous mettre une balle dans la tête, vous êtes les bienvenus. Alors voilà, donc effectivement, c'est voilà, moi je fais partie de ceux qui sont inquiets effectivement sur l'avenir. Il y a des signes contraires, mais moi ce bouquin je l'ai fait aussi. Bon, ce bouquin est né dans mon esprit 6 jours après la naissance de mon fils. Enfin, mon métier c'est guide accompagnateur à l'international, j'étais à Venise. Et je me disais, qu'est-ce que je fais loin de la maternité, hein? Qu'est-ce que je fais là? Mon fils est sorti de la maternité, je ne l'ai pas vu. Et je me suis dit, je vais écrire un bouquin pour sa génération. Hein, pour lui dire, regarde ce qu'on a initié, regardez ce que vous ne faites pas faire, à mon avis, à montrer un peu avis. Voilà.
Je vais lire un petit extrait qui concerne justement ce que peut dire un père. 11 heures, donc on suit les dernières heures de la vie de ce monstre.
Les toutes dernières heures de la vie d'un monstre, oui.
Fils, j'ai envie de te raconter encore. J'ai envie de me raconter mieux. La nuit va tomber, ma dernière nuit. Il fait très chaud, au moins 45 degrés. L'atmosphère est étouffante, mais je ne dois pas faire de bruit. Transpirer en silence pour ne pas attirer l'attention. Je vais rester encore tapis dans l'ombre, à l'écart de cette baie vitrée encore quelque temps. 11 heures, une éternité, une seconde. Une vie à revivre et un petit quelque chose à transmettre. Le grand sablier semble percer. Vraiment peu de temps encore pour donner ce qu'un père doit donner à son fils. Je dois me calmer, respirer profondément, éponger mon front, te parler de ce qui s'est passé après Venise. Merci. Alors voilà, on a la possibilité de voir dans le livre de Jérôme Besançon un individu qui décide d'un changement radical. Est-ce qu'on a le même, c'est le sentiment que j'ai eu à la lecture du roman de Jean-Luc Marcassel, est-ce que vous pensez que la prise de conscience d'un seul individu, de cet homme dans votre livre et de Clara dans le livre de Jean-Luc, est-ce que la prise de conscience d'un seul individu permet un changement radical? Est-ce que vous croyez à l'action de l'individu par rapport au système, par rapport aux masses?
Oui, dans la mesure, il faut bien commencer quelque part. C'est également un signe d'anonymiser même la plus petite personne, de changer le cours de l'histoire. Donc en fait, quand Tolkien écrit ça, lui, la petite personne, c'est l'anglais de base. Quand il va se battre, par exemple, dans la Première Guerre mondiale, c'est bien les choses changent par l'action des petites personnes. Souvent, une peut-être au début, puis deux, puis trois, puis dix, puis des milliers, puis des millions. De toute façon, si quoi que ce soit doit devenir, ça passe par les gens avant toute chose. Donc après, je pense que de toute façon, voilà, aucune action n'est anodine, totalement. Je pense qu'il est perdu. Rien de ce que peut faire une personne, si petit soit-il, à son petit niveau. C'est ce que je dis souvent. Des fois, j'entends justement, on me parle de grandes causes, on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. J'en ai écouté, regardez autour de vous, je ne sais pas. Qui est au coin de la rue, pour lui filmer un gros, vous savez, en passant à côté le matin, il pourra se payer un petit peu de temps avant de me tenir des grands discours. Faites des petits gestes au quotidien. Je veux dire, le monde, il commence à notre porte. Il n'est du bien, enfin, aux gens autour de soi. Déjà, si tout le monde faisait ça, je pense que le monde s'en porterait beaucoup mieux.
Ok, des petits gestes pour que l'environnement aille mieux, c'est, ou pour que les amis autour aillent mieux, c'est déjà...
Les gens aillent mieux autour. Alors, les petits gestes pour l'environnement, oui, ça peut être important aussi, même si c'est vrai que des fois, on a un sentiment de disproportion, justement, entre les je disais tout à l'heure, tout est foutu, moi j'ai ce sentiment-là. C'est vraiment l'énormité du discours en disant voilà, ça y est, c'est cuit dans 50 ans, la mer va remonter de 100 mètres, etc. Enfin bon, tout sera pollué et puis on les met trié aux déchets. L'énormité de Damoclès qui nous tourne dessus et la dérision des. Voilà, on dirait que c'est un petit geste propriétaire quelque part, c'est comme si on faisait ça. Et c'est pas ça qui va nous sauver, je pense pas que ce soit en triant mes déchets tous les jours, je le fais. Je fais mon petit geste propriétaire, voilà, je le fais. Mais je me dis quelque part, c'est pas par moi que ça devrait commencer, parce qu'il faudrait déjà qu'au niveau économique global.
C'est là toute la ambivalence de ce discours et de notre situation actuelle, c'est qu'en même temps, on se dit, oui, les choses peuvent commencer à changer par nous, et on a conscience que même si on commence à les changer par nous, ça ne change pas grand-chose plus haut. C'est presque schizophrénique comme situation.
Et on se rend compte qu'on est dans une situation, des fois absurde, où ce sont les marchands de soupe qui nous tiennent le discours. Par exemple, quand un supermarché me dit voilà, pour l'environnement, nous ne donnons pas de sac plastique. On a l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule.
On vous le fait payer.
Voilà, on vous le fait payer, comme ça, c'est plus responsable. D'accord, mais que ce soit toi qui me le dis, je trouve ça un peu intéressé.
Jean-Marc, est-ce que les enjeux mondiaux, moi, il m'a semblé, en regardant vos différents livres, que les enjeux mondiaux dans tous les domaines, par rapport à l'environnement, par rapport à la nature, ne tourne qu'autour d'une question principale qui est celle du manque. Le manque d'eau dans Aquatiane, le manque de souplesse et de tolérance dans le monde de Clara, le manque d'éthique, le manque de temps pour votre héros. Est-ce que le manque, c'est quelque chose qui conduit à la perte d'humanité, à la perte de conscience?
Je pense que oui, nécessairement, comme le faisait remarquer Jérôme tout à l'heure, plus il y aura d'êtres humains sur la planète et moins ils pourront se partager les ressources, donc plus ils vont manquer des besoins les plus vitaux au final. Quoi. La dégradation de la société, à mon avis, due à la pollution, la surpopulation, le réchauffement climatique, etc., va commencer par déjà une dégradation de ce qu'on estime superflu, qui déjà n'existe pas pour 70% de la population. Pour nous, c'est l'accès aux biens de consommation, quoi, à vrai dire, qui vont finir par manquer. L'augmentation des catastrophes va entraîner un surcoût des assurances, etc., va entraîner un surcoût pour la société qui va être dans ce qu'elle est. Prédatrice pour les humains, enfin, sous sa forme actuelle en tout cas, va compenser en ponctionnant de plus en plus les classes moyennes, voire les pauvres classes, car les classes moyennes n'existeront plus. Donc forcément, on va vers une société du monde pour le plus grand nombre. Et déjà dans la QATM, c'est un peu ce que j'essayais de montrer, c'est à quel point, bon, moi j'ai basé ma problématique uniquement sur le réchauffement climatique. C'est vrai qu'un peu mis de côté, et puis le manque de ressources, effectivement, j'ai un peu mis de côté la surpopulation et tout ça. Sinon, je faisais.
Avec le réchauffement, on a déjà.
Et donc, je vous montrais comment le prix de ce réchauffement, comment il va impacter la société et la fissurer. D'abord par des petites choses. Et disons que les failles qu'on aperçoit déjà dans les pays du tiers-monde. Afrique, Bangladesh et tout ça. Bon, Bangladesh, dans 30 ans, ils sont sous l'eau. Quoi. Ils sont 160 millions, un truc comme ça, quoi, sur une surface grande comme la France. Quoi. Bon, ils vivent déjà la catastrophe. Il y a déjà des pays qui vivent la catastrophe. Et ça va s'étendre. Parce que les gens vont de plus en plus manquer, effectivement, des ressources de base nécessaires.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est, parfois, moi, quand je regarde les infos, j'ai l'impression d'être dans un roman d'anticipation que j'ai lu il y a 10 ans. J'ai l'impression d'être. Quand le patron de Nestlé dit mais l'eau ne doit plus être une ressource gratuite, j'ai l'impression d'être dans Orwell, quoi. Et quand
fait, c'est encore du futur. Mais c'est vers là qu'on va s'il n'y a pas une réaction. Et je pense qu'il y aura une réaction. Là, je ne sais pas, pessimiste à ce point, je pense que l'humanité ne va pas se les écouler comme ça, en fait. Effectivement, les forces prédatrices, celles qui voudraient ne jamais manquer, quoi, justement, et surtout pas partager, quoi. Donc les puissances multinationales, tout ce capitalisme, tout cet impérialisme, etc., de plus en plus se plier sur lui-même et devenir de plus en plus prédateur, jusqu'à ce que ça pète vraiment, quoi. Et que la pauvreté et le besoin vital de nourriture, d'eau, enfin, les besoins les plus vitaux, ne soient plus cantonnés seulement à des pays où il y a guerre de défense possible, quoi, genre, Bangladesh, Burkina, Tasmanie, enfin bon, les pays, voilà, où il se passe, où les populations ne sont pas capables de se défendre, elles peuvent s'attendre à l'Europe elle-même. Il va y avoir un clash. Moi, je pense qu'il y aura un changement nécessaire. Et salutaire, mais qui ne sera pas dans la douceur, ça j'en ai peur.
Justement, alors, parlons de douceur. Moi, j'ai le sentiment que quand les situations, les événements deviennent extrêmes, est-ce que les décisions qu'on prend doivent elles aussi devenir extrêmes? Est-ce qu'on doit. C'est un peu le propos d'Arnaud pour Clara. Quand on va vers l'écologie extrême, ça ne se passe pas que très bien. Et est-ce que c'est ça que vous voulez dénoncer?
C'est le principe de la dictature, c'est de dire que même avec finalement de très bonnes idées ou un but qui est honorable, dans de mauvaises mains, on arrive à des abominations. Je veux dire, parce que si on regarde, par exemple, dans les années 30, Hitler a redressé la main économiquement, il a fait ça très bien, il faut voir comment il l'a fait. Je veux dire, si on tombe sur quelqu'un, tu vois, quand on tient, quand, par exemple, j'entends, voilà, il y a trop d'humains sur Terre, oui, il va falloir faire quoi? Limiter les naissances, d'accord? Donc, qui va avoir le droit de se reproduire? Et dans ce cas-là, qui va donner le droit de se reproduire? Et à qui? Et selon quels critères? Il y en a qui sont trop gros pour se reproduire, qui sont trop riches ou pas assez riches. Et puis après ça, on connaît. Il y en a qui sont trop jeunes, qui sont trop noirs, qui sont pas. Pourquoi? Voilà,
contre.
À partir du moment où on donne ce pouvoir à des gens, ce pouvoir de décision de savoir qui va avoir le droit d'avoir des enfants et combien, ils vont s'en servir.
Je vais lire un petit extrait de votre livre qui montre comment, justement, quand on décide d'aller à l'extrême, parce que la situation est extrême, on dépasse facilement les limites. Clara se réveille dans un monde où l'écologie a pris le dessus, dans un régime complètement totalitaire, et donc il y a plein de choses qu'elle ne comprend pas parce qu'elle n'a pas vécu la transition vers ce monde, et donc elle en discute avec quelqu'un qui essaye de lui faire comprendre choix qui représente la seule solution. Assis d'un côté de la grande table, Léo, frais et régulé lui aussi, l'attendait dans un habit sombre, râpeux, blanc et kimono japonais, qui met en valeur sa silhouette athlétique. À le voir ainsi élégant et distingué, tel un samouraï des temps modernes recevant sa dame, Diane avait du mal à concilier son image avec celle du monstre cuirassé qui, quelques heures auparavant, avait déchaîné sa violence meurtrière dans ce petit village. Mais alors qu'il lui souriait et se levait pour l'accueillir en lui désignant le siège qui lui faisait face, un frisson l'avait parcouru tout entière. Samouraï veut dire servir. Un samouraï servait son maître, aveuglément, sans poser de questions, conformément au Bushido, la voix du guerrier. Il coupait l'acte des conséquences. Et c'était très exactement ce qu'était Léo. Oui, jamais on n'avait connu d'homme plus raffiné, plus élégant, plus honorable que les samouraïs. Ni tueur plus impitoyable. Une douce brise surprenante pour un mois de novembre s'infiltrait jusqu'à eux par une des baies ouvertes, appelant à la détente et à la volupté. Mais ce soir, pour Léo et elle, il n'y avait ni l'une ni l'autre. À peine assise, il l'avait complimenté sur sa tenue et sa coiffure, comme si rien ne s'était passé, comme si cet après-midi dans le village n'avait été qu'un rêve ou qu'un cauchemar. Elle avait ouvert les hostilités, elle avait répondu sèchement à toutes ses questions, se comportant d'un vaguement grognement d'un mot lapidaire. Enfin, elle avait exigé de retourner à Léo Lutetia immédiatement, dont il lui avait avoué ne pas avoir trouvé ses parents. Il avait fait celui qui n'entendait pas, avait délié la conversation, mais il y était revenu deux fois, trois fois, cinq fois. À la dixième, et alors qu'il esquivait, une fois encore, le verre avait volé. « Tiens, tu es folle !» Elle éclata d'un rire moqueur. « Moi, folle, c'est toi qui me dis ça. Tu ne casses pas les verres contre les murs quand je parle à quelqu'un, moi. »« Non. » Elle secoua la tête. « Toi, c'est les gens que tu casses. »« Diane, tu... » commença-t-il en tendant une main vers la sienne qu'elle retira aussitôt de la table, comme si son simple contact lui était des hauts dieux. Toi et tes copains, les chevaliers, vous avez massacré ces pauvres gens. Ils te menaçaient, ils insultaient Galia, le géophile, ils t'insultaient, toi. Ils avaient faim, ils étaient désemparés. Tout ce qu'ils ont fait, c'est me jeter des fruits pourris. Ce n'est pas très agréable, mais je n'en serais pas morte. Eux, vous les avez tués. Tu les as tués. J'ai fait ce qu'il fallait pour te protéger. Voilà, c'est une confrontation importante dans le roman. Et comment est-ce que, à un moment, pour une bonne idée, on devient quelqu'un qui tue?
Mais je pense qu'en fait, on ne s'aperçoit pas du glissement. C'est ça le problème, c'est qu'on devient un monstre petit. Je pense qu'en toute dictature, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça part d'une bonne idée. Toutes les dictatures qu'on a pu voir, jamais un dictateur ou ceux qui œuvrent pour, ils ont l'impression d'œuvrer pour le mal. Il n'y a que dans les films où, dans les étoiles, ils ont vraiment l'impression que ah, c'est un méchant et c'est vraiment mal. Et en d'autres problèmes, non, ils pensent. Ces gens-là pensent œuvrer pour le bien. Pour,
vous voulez dire que les dictateurs dans la vraie vie, ils n'ont pas des rires
Non, vous allez voir, je vais deviner le monde. Non, si, il y a peut-être qui sont même profondément eux-mêmes convaincus, certains qui font ça pour le bien commun. Je pense qu'il y en a qui sont civiques, qui sont avec la poche peut-être, mais je pense qu'il y en a certains qui le croient vraiment. C'est ça qui est terrible.
Moi, c'est le cas d'une méchante histoire dans quoi qui est en pénifulaire, le DG d'une entreprise, Worldwide, donc multinationale, qui est donc une multinationale qui est neuve que dans l'écologie. En fait, il fait des greenwashing à vaste échelle, mais il est persuadé d'œuvrer pour le bien de la planète, de contribuer à lutter contre la pollution, la déforestation, etc. Il plante des arbres, il fait des cultures bio, il prend les
greenwash,
voilà. Et il est profondément préoccupé par la désertification du Kansas. Il va amener de l'eau dans le Kansas parce qu'il est du Kansas. Et donc, quand un satellite, une date d'observation de la Terre d'une de ses compagnies, découvre une nappe phréatique dans le sous-sol du Burkina Faso, il estime légitimement que cette nappe lui appartient. Il n'y a rien à foutre du Burkina Faso qui est en train de mourir de soif.
Justement, voyons comment ces gens du Burkina Faso, eux, ont décidé que les choses ne se passeraient pas forcément comme lui l'a décidé. Car si je retrouve pas ma page, c'est moche. Alors, Alain Palanfaux, le timide ministre de l'économie et des finances, Marie de Lassina, ose emprunter doucement la parole. Nous devons aussi envisager des coûts d'exploitation. Peut-être qu'une bonne négociation apporterait une aide financière conséquente. Vous taise, s'emporte Lassina. Si on leur tend le petit doigt, c'est tout le bras qui nous bouffe. Le mieux, c'est les ignorer, marmonna Amadoudo. Fatimata laisse tourner le débat, soulignant à mi-voix, à l'adresse de Yuri, les arguments qui lui semblent importants. Le conseil se divise bientôt en deux camps. Pour ou contre une négociation avec Fuller. Quand chacun commence à se répéter, elle passe sa main sur la table et réclame le silence. Bon, j'ai écouté vos arguments, dont la plupart sont pertinents. Il s'agit maintenant de prendre une décision que nous allons soumettre au vote. À main levée, si vous le voulez bien, car Yeri m'informe qu'on manque de papier pour le faire à bulletin secret. Alors ceux qui sont pour négocier avec Fuller, qui lèvent la main. Yeri compte et note le résultat sur son calepin. Ceux qui sont contre, idem. Merci. Yeri, résultat, 6 pour. 5 contre, 2 abstentions, déclare la secrétaire. Très bien, conclut Fatimata. Nous allons donc envoyer une invitation officielle à ce monsieur Fuller. Pas d'objection? Si, j'ai une objection, s'énerve la SINAP à l'info. En attendant que monsieur Fuller vienne nous répondre, des centaines de gens vont encore mourir de soif. En sachant ce qui est pire, qu'ils ont toute cette eau sous leurs pieds. Oh, mais nous n'allons pas attendre, ma chère Lassina, sourit Fatimata. Présentement, un convoi chargé de matériel de forage doit être en route pour le Burkina. Sur les balis. Mais alors, tu avais déjà pris ta décision, Fatimata. Tous ces cadavres n'ont servi à rien. Si, ils t'ont servi à définir une stratégie en toute démocratie, ce qui n'est pas toujours évident dans les temps qui courent. Ceci dit, je ne sacrifie pas les intérêts vitaux du pays sur l'autel de la démocratie. Nous avons besoin de cette eau, et nous l'aurons, coûte que coûte. C'est intéressant que les bons, les gentils, ceux qui sont à la tête de ce pays et qui ont besoin d'eau pour ne pas mourir, soient eux aussi amenés à des décisions extrêmes, à des décisions pas démocratiques. On est très très fan en Occident de cette notion de démocratie parce qu'on est encore dans une situation où on peut se le permettre peut-être.
Voilà, ben là effectivement, en l'occurrence, pour le Burkina est en train de mourir de soif, le désert gagne. perd la force.
Alors justement, est-ce qu'il y a une...
Mais voilà, Perkin a résisté. Et hélas, dans à quoi justement j'arrive à expliquer que parfois l'opiniâtreté de ceux qu'on croit qui est plus faible finit par l'emporter, quoi. Le revient chinois, l'eau finit par amuser les pierres les plus dures, quoi.
Est-ce que justement, on parle de négociation, d'accord possible ou pas possible, de prise de l'eau par la force, est-ce qu'il y a une voie pacifique pour l'écologie? Est-ce que vous, c'est quelque chose à l'aide? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez? La possibilité de changer de façon sans que ça soit libre, que ça soit en évolution et pas en révolution?
Bon, moi, je suis peut-être pas forcément le plus optimiste de tous. Et pour l'écologie, elle est prise dans un contexte économique. C'est-à-dire qu'on est dans une économie où il n'y a plus de contre-parole, d'une société où il n'y a plus de contre-pouvoir. En 1990, le mur de Berlin est tombé, le capitalisme a triomphé. Tout à l'heure, tu parlais du manque, hein, donc le manque de consommation. L'Occident est rentré dans cette logique, effectivement, de consommation, et l'écologie n'est qu'un élément économique. La meilleure volonté, les grandes volontés écologiques, effectivement, le tri sélectif, on est réduit, nous, citoyens, à des bouts de chandelle. Hein, on va consommer de l'eau, hein, ça se plastique à mettre 150 ans, on se dit souvent, on le retrouvera dans nos artères. Donc on est de toute façon confronté aujourd'hui à un monde économique, avec effectivement une volonté. Un système mis en place qui n'a plus de contre-pouvoir, et la machine qui s'est mise en route, je pense, laisse de moins en moins de place à l'écologie globalisée. Effectivement, les réflexes peuvent être individuels, mais je ne pense pas effectivement que l'écologie, quand on a faim et quand on a soif, quand on n'a plus rien, on s'en fout de comment on va avoir à manger. Si c'est produit, si pour ça il faut mettre 50 000 tonnes de pesticides dans un champ d'un hectare, et qu'effectivement après la terre est brûlée pendant des siècles, regardez la forêt amazonienne, les gens ils coupent des arbres qui sont considérés comme le poumon de la terre, ils cultivent pendant 5 ans, puis après ils continuent à déforester. Donc l'écologie dans un monde à 7-9 milliards, moi je pense pas, moi je pense effectivement que les changements s'inscriront pas dans l'évolution, malheureusement, ou dans la révolution, ou dans la disparition d'un grand nombre d'êtres humains par différents moyens. Mais voilà, je dirais, après ça, c'est une vision personnelle.
Vous êtes en train de nous dire qu'on peut... Alors, deux questions. Dans un premier temps, est-ce qu'on est sur le Titanic et que tout le monde fait comme si l'iceberg n'existait pas et on ne fait pas attention et continue à évoluer le navire et l'orchestre continue à jouer de la musique, et est-ce que c'est ça l'idée?
Ben, ce que je vois pas, c'est qu'en fait, c'est qu'individuellement, par exemple, là, les gens, on a tous sur notre portable, etc. Donc, la plupart des gens, par exemple, ils vont prendre leur portable avec leur abonnement, ça va coûter 1 euro. Si on a un portable avec 1 euro, c'est quelque part, il y a quelqu'un qui ne bouffe pas. Mais est-ce qu'on accepte? Donc, est-ce que tous les gens qui ont leur portable 1 euro, on leur dit, tout à coup, ben, les billons, ils coûtent 500 euros, le machin. Tout à coup, est-ce que tout le monde est prêt à faire le sacrifice de, par exemple, on va consommer trop d'énergie, est-ce qu'il y en a qui acceptent d'éteindre leur chauffage pendant l'hiver? Ces sacrifices, on a l'impression que chaque fois on le demande aux autres. Est-ce qu'on est prêt à les faire nous-mêmes? Voilà, c'est ça. Est-ce que, par exemple, on est prêt à renoncer à notre confort de tous les jours, au confort qu'on a maintenant? Je ne sais pas, par exemple, ce qui est assez étonnant, c'est de voir, ne serait-ce qu'il y a 50 ans, moi je discutais il y a peu très longtemps avec ma mère, elle me dit, mais tu sais, quand on était enfant, pendant la plupart de mes amis, il n'y avait pas de salle de bain, ils se lavaient dans la cuisine. On les dit, la cuisine, il n'y avait pas 300 000 évier, 300 000. Voilà, c'est assez fou. On ne se rend pas compte en fait du confort dans lequel on vit. Est-ce qu'on accepterait de renoncer à ce confort-là? Est-ce que les gens vont accepter volontairement?
Je serais dénoncé. En fait, même si à quoi l'anecdote paraissait d'être un peu pessimiste, parce que je décris clairement l'extinction un peu sans folie humanité si on n'agit pas. Moi, je pense que. Le germe du changement de la société existe déjà et commence déjà à fleurir, à porter leurs fruits. On sait ce qu'il faut faire, on sait comment agir, on sait que ça peut être que vivre d'une façon encore plus rentable que de les économiser. C'est encore plus rentable de faire fonctionner une centrale nucléaire que de faire fonctionner 50 éoliennes. Mais il y aura un jour où ça ne va pas s'inverser. Et l'économie, elle commence déjà à s'emparer de l'écologie pour en faire quelque chose qui va être économiquement viable. Mais c'est quelque chose d'économiquement viable pour fonctionner implique une économie de type décentralisée et communautaire qui va nécessiter forcément le changement de société. Le type de société dans lequel on vit et l'économie qu'elle a gérée ne sont pas viables, tout simplement pas viables. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et même les plus riches, même les nantis, même ceux qui ont tout, même ceux qui ont mis le système en place, ils vont en partir.
Mais je crois que c'est un peu pour ça que tu parlais du système, c'est-à-dire qu'il y a un moment où je pense que tous ceux qui se soucient de la planète sont en train de dire attention, l'avenir de la planète commence à devenir plus important et plus en danger que l'avenir des passagers.
Exactement.
Et on a un peu tous l'impression que tous les passagers font comme s'il y avait des chaloupes, comme s'il y avait des navettes qui allaient pour nous voir nous emmener sur Mars terraformé, enfin comme si on pouvait s'échapper du navire.
Oui, mais il n'y a pas, on ne peut pas s'échapper du navire.
Mais on est quand même tous un peu des
passagers du Titanic. Et par exemple, il reste les derniers nantis qui vivent sur des enclaves, sous dôme, etc. Ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir, qu'ils vont crever comme les autres, quoi, au bout du compte. Donc, qu'ils se complaisent dans c'est une métaphore, mais ils se complaisent dans une espèce d'éternel présent qui ne les mène nulle part. Et ils le savent. Ils le savent et leur vie est triste, quoi, parce que même s'ils font semblant d'avoir encore, c'est qu'une illusion, quoi. Donc, forcément, à mon avis, le monde, au cours de ce siècle, va changer nécessairement. On va dire un monde pas, il peut y avoir peut-être des millions, des milliards de morts, il peut y avoir beaucoup de violence, il peut y avoir un changement plus harmonieux, ce ne sera pas uniforme sur la planète, un changement, tout d'un coup on va se réveiller et puis c'est la révolution.
Là, c'est pas du sucre avec papier et verre, tout ça, ça ne servira à rien.
Il y a des endroits où ça va bien se passer, où le changement va peut-être se faire en douceur, en harmonie, les gens vont trouver. D'autres endroits où ça va être effectivement la fleur d'emploi, où ça va être les tripes pour survivre.
Je pense qu'il y a par contre, dans ce que disait, tu disais, voilà, est-ce que la planète est foutue? Non, la planète ne sera pas foutue, hein, mais je pense que c'est nous qui sommes foutus. C'est l'être humain. Parce qu'il y a des expériences sans sortir très bien, je veux dire, voilà, c'est les humains. C'est-à-dire qu'il y a toujours la vie finie, toujours. Enfin, il y a eu des catastrophes, il y a eu des extinctions de masse à répétition. Et la vie a toujours trouvé un moyen, des espèces qui en tirent profit, qui vont se développer, mais nous, par contre, on y
va.
Les scorpions, certainement, les scorpions s'en sortiront très bien, ça résiste à toutes ces choses-là, pratiquement. Des doses de radiation mortelles, des conditions de vie effroyables, les fourmis aussi, elles ont déjà survécu quasiment à toutes les extinctions de masse depuis un certain nombre de temps, elles ont survécu à 10 heures, elles ont survécu.
Donc, on pourrait plutôt viser la réincarnation et viser les scorpions, la fourmi.
Ils s'en sortiront, nous, par contre, c'est moins sûr.
C'est ce dont je parle dans mon prochain qui est ce morceau. Où les humains.
Ça fait un quart de fourmi.
Non. Les survivants ont adopté un mode de vie en symbiose avec les fourmis. Ouais. Parce que les fourmis les aident beaucoup, en fait, ils ne valent pas plus que les fourmis. Quoi. Ils sont même beaucoup moins résistants que les fourmis, donc ils comptent sur les fourmis pour survivre. Et donc les fourmis deviennent un peu la race dominante sur la planète. Et se servent des humains pour leur extension, parce qu'un humain marche plus vite qu'un troupeau de fourmis, donc c'est pratique.
Est-ce que vous croyez au mouvement virtuel et virtuel? Est-ce que vous pensez que via les réseaux sociaux, via la façon dont les gens s'informent dorénavant, ils sont plus, peut-être un peu plus sensibilisés à ce qui se passe loin? Je ne dis pas qu'ils sont forcément pas hypnotisés par les informations qui leur parlent de trucs auxquels ils ne sont pas forcément... Est-ce que vous croyez que le fait d'être mieux
on a énormément de détachement. Effectivement, elles ont une grille de lecture très précise sur le monde. Donc, elles arrivent à prendre un élément pour dire, tiens, ça va dans le sens auquel je pense. Ah, non, ça va dans un autre sens. Mais globalement, une majorité de personnes, d'après moi, effectivement, ne sont que des réceptacles de l'information et n'analysent plus. On le voit, je dirais, la masse de gens se passionne pour des choses de plus en plus futiles, hein, de plus en plus. Donc, la masse d'informations.
Mais Paul Watson, Shell qui recule sur les forages parce que les gens pétitionnent, est-ce que tout ça, c'est pas des poches d'espoir, est-ce qu'on peut...
Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Mais l'information, et quand on voit cette information, ce besoin de contact immédiat, de l'image, d'avoir des sons et des images, se traduit par exemple par des essais maintenant sur des implants rétiniens pour avoir effectivement ne plus avoir le téléphone portable comme une extension, mais directement sur l'œil. On le complète avec un implant auditif et on met complètement, on quitte le monde des hommes pour rentrer dans le monde de l'information et de la communication. Donc, moi, je mets un grand même la richesse de l'information. Une information, on n'a pas des cerveaux assez, complexes pour tout analyser. On n'a pas forcément le temps. On est pris aussi dans nos enjeux économiques propres, c'est-à-dire trouver et faire son salaire du mois. Et donc, je pense que l'information est trop importante.
Moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, si j'étais dictateur, j'essaierais pas de censurer l'information. Voilà, j'essaierais pas de censurer l'information. Au contraire, plus il y en a des choses importantes sur les dans le des bêtises ou des choses inintéressantes. Donc en fait, et puis du coup, comme il y a tellement d'informations qui saturent, on sature tellement les gens, en fait, ils sont tellement submergés d'informations, en fait, ça devient une culture du zapping aussi au niveau de l'événementiel. Et puis le sensationnel tout le temps, justement, la surenchère tout le temps. Là, par exemple, je prends l'exemple de ce qui se passait en Ukraine il n'y a pas très longtemps, vous entendez parler beaucoup. Et personne n'en parle, on en parle en face pendant deux semaines, on parle que de ça. Et après, les gens oublient, hop, ça, qu'ils sont passés à autre chose. Alors, les personnes qui suivent, qui sont vraiment intéressées par ça, vont suivre. Peut-être s'y intéresser, vont aller voir des livres, aller voir ce qui se passe sur Internet. Mais la plupart des gens ont oublié au bout de deux semaines, ça y est, c'est passé à la trappe.
J'entends bien ce que vous dites sur le suivi, sur le flux, mais quand même, quand des gens réussissent à tous se mobiliser parce qu'ils sont tous. Parce qu'il y a une vidéo qui montre comment un policier tue un noir à Baltimore, est-ce qu'il n'y a pas par moment des choses qui, parce qu'elles sont exposées, deviennent moins sous la coupe. Enfin,
est-ce que c'est durable? C'est-à-dire que c'est des flambées. C'est une flambée, ça va durer une semaine. Tout le monde va s'émouvoir pour une chose. Et par exemple, regardez, comme pour Charlie Hebdo, par exemple, il y a un mouvement extraordinaire. Ça s'est traduit en jamais, on avait vu quasiment une réaction. Et puis quelques semaines plus tard, on n'en parle quasiment plus. Ça marche
en général assez parfumé. Néanmoins, ça produit des résultats quand même. Ça produit des résultats.
Là, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas cohérent avec votre. Une personne change une chose. Si c'est la petite chose qui change, il faut que chaque petite chose se produise.
Il y a des réseaux du type, effectivement, Amnesty, Airbus, Greenpeace, etc. Donc, qui travaillent dans la durée, quoi. Et relancent sans cesse leurs membres, ont de plus en plus de membres. Et là, les gens s'inscrivent dans effectivement, une réflexion de groupe en profondeur et qui ne cesse jamais. Moi, je dirais que il y a vraiment un élément là-dedans. Et malheureusement, bon, bah, si la plupart des gens voient les informations que sur M6 ou TF1 ou sur Facebook, et puis ils prennent tout ça comme argent comptant, effectivement, bah, c'est le niveau zéro d'information. Quoi. C'est effectivement, comme vous disiez, il y a trop d'infos, trop d'infos. Quoi. Et ils n'arrivent pas à séparer parce qu'il n'y a plus aucune analyse. Ils n'arrivent pas à séparer bon, quand ils voient. Mais tous les gens ne sont pas des connards, a priori.
Quoi. Non, ce n'est pas des connards, mais tu sais, par exemple, si c'est juste pour s'indigner à table, oh, c'est dégoûtant, le banque est en train de faire les autres couleurs vont disparaître. Bon, d'accord, j'ai fait sonner une vérité utile, hein, puis maintenant je peux aller retourner bouffer avec elle dans les pantoufles. Je veux dire, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce qu'on fait contre ça? Donc voilà, ou contre. Voilà. Si c'est juste pour pouvoir s'indigner comme ça et donner bonne conscience, je ne vois pas l'intérêt.
Alors comment est-ce qu'on fait pour responsabiliser les gens individuellement? Enfin, moi, je ne sais pas, quand je vois passer un répond de tuer les requins parce qu'il est vraiment chez les vaches, enfin, moi, ça me semble cohérent et c'est pas parce que c'est qu'ils sont un peu de la plaisanterie que.
Si tu veux, moi je prends un exemple bête, c'est quand on nous dit par exemple, ah, attention, l'empreinte carbone, il faut la baisser. Les joueurs partout, par exemple, on est en train de supprimer les lignes de chemin de fer. Les gens du coup se déplacent en voiture, donc je trouve ça merveilleux.
Enfin, moi j'ai une autre réponse. Soit on écrit des livres d'anticipation pour faire réfléchir voilà, ce qu'on peut nous à notre niveau. Niveau ce qu'on peut faire. Alors on fait ça. Donc, voilà, c'est ma réponse. Là. C'était devant mon impuissance, à l'essence de mon fils, je suis quel monde je vais lui laisser. Au moins, je vais faire un bouquin.
Effectivement, il peut servir massivement à une consommation de masse, et c'est ce qu'il peut.